Lizzie présente L'armée des ombres de Joseph Kessel, lu par Samuel Labarthe. Préface. Il n'y a pas de propagande dans ce livre et il n'y a pas de fiction. Aucun détail n'y a été forcé et aucun n'y est inventé. On ne trouvera assemblé ici, sans apprêt et parfois même au hasard, que des faits authentiques, éprouvés, contrôlés et pour ainsi dire quotidiens. Des faits courants de la vie française. Les sources sont nombreuses et sûres. Pour les caractères, les situations, la souffrance la plus nue, et pour le plus simple courage, il n'y avait qu'un tragique embarras du choix. Dans ces conditions, l'entreprise semblait des plus faciles. Or, de tous les ouvrages que j'ai pu écrire au cours d'une vie déjà longue, il n'en est pas un qui m'ait demandé autant de peine que celui-là. Et aucun ne m'a laissé aussi mécontent. Je voulais tant dire, et j'ai dit si peu. La sécurité était naturellement le premier obstacle. Ces droits majeurs enchaînent celui qui veut raconter la résistance sans romanesque et sans même faire appel à l'imagination. Ce n'est pas que le roman ou la poésie peignent moins vrai qu'un récit attaché à la réalité. Je crois plutôt le contraire. Mais nous sommes en pleine horreur, au milieu du sang tout vif. Je ne me suis pas senti le droit ou la force de dépasser la simplicité de la chronique, l'humilité du document. Il fallait donc que tout fût exact et de la manière la plus scrupuleuse. Une seule couleur fausse risquait de donner un ton Saint-Sulpice à des tableaux de lutte sacrée. Il fallait que tout fût exact et en même temps que rien ne fût reconnaissable. À cause de l'ennemi, de ses mouchards, de ses valets. Il fallait maquiller les visages, déraciner les personnes et les planter ailleurs, mélanger les épisodes, étouffer les voix, dénouer les liens, dissimuler les secrets d'attaque et de défense. On ne pouvait parler librement que des morts, quand ils n'avaient ni famille ni amis menacés, ou des histoires qui sont en France tellement familières qu'elles n'apprennent plus rien à personne. Les pistes sont-elles assez enchevêtrées, effacées? Ne va-t-on pas reconnaître celui-ci, celle-là? Telle est la crainte qui sans cesse a suspendu ou gêné ma main. Et quand elle était apaisée, quand je pensais avoir pris toutes les précautions voulues, naissait une autre anxiété. Je me demandais alors, suis-je encore dans la vérité? Ai-je transposé selon une juste équivalence les origines, les habitudes, les professions, les rapports de famille ou de sentiments? Car un acte n'a plus du tout le même caractère, la même valeur ou le même sens s'il est accompli par un riche ou un pauvre, un célibataire ou un père de 6 enfants, un vieillard ou une jeune fille. Et quand je croyais avoir à peu près réussi dans cette substitution, j'étais pris d'une amère tristesse. Il ne restait plus rien de cet homme, de cette femme que j'aimais, que j'admirais, de qui j'aurais voulu raconter la vie ou la mort sous le nom, sous le visage véritable. Alors j'essayais de reproduire au moins le son d'un rire, ou la qualité d'un regard, ou le chuchotement d'une voix. Telle était la difficulté première, évidente, et pour ainsi dire d'ordre matériel. Mais les gênes évidentes et matérielles ne sont jamais les plus lourdes à porter. Un autre tourment m'a poursuivi tandis que j'écrivais ces pages. Il n'avait rien à voir avec les exigences de la sécurité, il était d'ordre personnel. Sans aucune fausse modestie, j'ai senti tout le temps mon infériorité, ma misère d'écrivain devant le cœur profond du livre, devant l'image et l'esprit du grand mystère merveilleux qu'est la résistance française. Quel est l'écrivain qui, essayant de peindre un paysage, une lumière, un personnage ou une destinée, n'a subi l'assaut du désespoir? Lequel ne s'est pas senti infidèle aux couleurs de la nature, à l'essence de la clarté, au-dessus ou au-dessous de l'être humain, à côté de la trame du sort? Qu'est-ce donc, quand il s'agit de raconter la France, une France obscure, secrète, qui est neuve pour ses amis, pour ses ennemis, et neuve surtout pour elle-même? La France n'a plus de pain, de vin, de feu. Mais surtout, elle n'a plus de loi. La désobéissance civique, la rébellion individuelle ou organisée sont devenues devoirs envers la patrie. Le héros national, c'est le clandestin, c'est l'homme dans l'illégalité. Plus rien n'est valable de l'ordre imposé par l'ennemi et par le maréchal. Plus rien ne compte. Plus rien n'est vrai. On change de domicile, de nom, chaque jour. Des fonctionnaires, des policiers aident les insoumis. On trouve des complices jusque dans les ministères. Prison, évasion, torture, attentats, coups de main, on meurt et on tue avec naturel. La France vivante, saignante, est toute dans les profondeurs. C'est vers l'ombre qu'elle tourne son visage inconnu et vrai. Peuple qui, dans les catacombes de la révolte, forme sa lumière et trouve sa propre loi. Jamais la France n'a fait guère plus haute et plus belle que celle des caves où s'impriment ses journaux libres, des terrains nocturnes et des criques secrètes où elle reçoit ses amis libres et d'où partent ses enfants libres, des cellules de torture où, malgré les tenailles, les épingles rougies au feu et les os broyés, des Français meurent en hommes libres. Tout ce qu'on va lire ici a été vécu par des gens de France. Mon seul souhait est de ne pas avoir rendu avec trop d'infidélité leur image. Chapitre 1. L'évasion. Il pleuvait. La voiture cellulaire montait et descendait lentement la route glissante qui suivait les courbes des collines. Gerbier était seul à l'intérieur de la voiture avec un gendarme. Un autre gendarme conduisait. Celui qui gardait Gerbier avait des joues de paysan et l'odeur assez forte. Comme la voiture s'engageait dans un chemin de traverse, ce gendarme observa : « On fait un petit détour !» « Mais vous n'êtes pas pressé, je pense. »« Vraiment pas, » dit Gerbier, avec un demi-sourire. La voiture cellulaire s'arrêta devant une ferme isolée. Gerbier ne voyait, par la lucarne grillagée, qu'un bout de ciel et de champs. Il entendit le conducteur quitter son siège. « Ce ne sera pas long, » dit le gendarme. « Mon collègue va prendre quelques provisions. Il faut se débrouiller comme on peut par ces temps de misère. »« C'est tout naturel, » dit Gerbier. Le gendarme considéra son prisonnier en hochant la tête. Il était bien habillé, cet homme, et il avait la voix franche, la mine avenante. Quel temps de misère! Ce n'était pas le premier à qui le gendarme était gêné de voir des menottes. « Vous ne serez pas mal dans ce camp-là, » dit le gendarme. « Oh, je ne parle pas de la nourriture, bien sûr. Avant la guerre, les chiens n'en auraient pas voulu. Mais pour le reste, c'est le meilleur camp de concentration qui soit en France, à ce qu'on assure. » C'est le camp des Allemands. Je ne comprends pas très bien, dit Gerbier. Pendant la drôle de guerre, on s'attendait, je pense, à faire beaucoup de prisonniers, expliqua le gendarme. On a installé un grand centre pour eux dans le pays. Naturellement, il n'en est pas venu un seul. Mais aujourd'hui, ça rend bien service. En somme, une vraie chance, remarqua Gerbier. Comme vous dites, monsieur, comme vous dites, s'écria le gendarme. Le conducteur remonta sur son siège. La voiture cellulaire se remit en route. La pluie continuait de tomber sur la campagne limousine. Gerbier, les mains libres, mais debout, attendait que le commandant du camp lui adressât la parole. Le commandant du camp lisait le dossier de Gerbier. Parfois, il enfonçait le pouce de sa main gauche au creux de sa joue et le retirait lentement. La chair grasse, molle et malsaine gardait l'empreinte blanche quelques secondes et se regonflait avec peine comme une vieille éponge sans élasticité. Ce mouvement marquait les temps de réflexion du commandant. « Toujours la même chose, » pensait-il. « On ne sait plus qui on reçoit et comment les traiter. » Il soupira au souvenir de l'avant-guerre et de l'époque où il était directeur de prison. Il fallait seulement se montrer prudent pour les bénéfices faits sur la nourriture. Le reste ne présentait aucune difficulté. Les prisonniers se rangeaient d'eux-mêmes en catégories connues, et à chaque catégorie correspondait une règle de conduite. Maintenant, tout au contraire, on pouvait prélever ce qu'on voulait sur les rations du camp. Personne ne s'en inquiétait. Mais c'était un casse-tête que de trier les gens.